Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Eh oui, c'est moi, Gérald, je n'ai pas changé, je suis toujours là. Voilà, donc...
Lucas, autant les couilles par contre. Hein.
Oh, mais c'est pas gentil.
Mais non.
Bon, bah, plus que ça, tu te tairas, toute l'émission, voilà. Donc du coup, on va dire que Laurence est là, elle est gentille avec moi, Lélo.
Oui, oui. Ma collaboratrice.
Collaboratrice.
Voilà, favorite. Oh.
Et unique. Et la seule
unique,
en même temps.
Unique et favorite,
oui.
Voilà.
Forcément.
Bernardo qui sera donc... manette.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bon. Bienvenue à nos invités ce soir.
Ah, c'est gentil Bernardo et merci à toi d'être venu malgré tous tes déboires de santé. Il est malade, il s'est défait, enfin il s'est foulé, non? Qu'est-ce que t'as fait déjà?
Encore? Qu'est-ce que tu t'es fait?
En faisant des galipettes?
Je me suis déchiré le muscle du bras gauche.
Oui. Voilà!
Ce que j'ai dit, il a un accident de fist-fucking.
Voilà.
Oh, ben c'est pas plus fin.
Donc,
j'allais dire justement, je ne savais pas que tu étais gaucher.
En bidex.
Donc il en reste toujours un d'utilisable.
Moi, que nous sommes coquins.
Alors, nous avons entendu aussi la voix de Yvan. Alors, Yvan est là. Yvan Mitifio, notre chroniqueur cinéma favori. Et c'est aussi le seul. Donc, du coup, Yvan est là pour évidemment, le festival écran mixte qui va commencer la semaine prochaine.
Oui, mercredi prochain.
Voilà.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir patronne. Bonsoir Jeffrey, bonsoir Laurence, bonsoir Bernard.
Et évidemment, Jeffrey est ici parmi nous.
Oui, quel bonheur.
Voilà, donc Jeffrey qui donnera son éclairage particulier sur le déroulement de l'émission et sur les invités aussi.
Oui,
enfin, surtout sur les invités.
Écran mixte.
Tu sais, de faire un bruit de fond comme ça pour que les gens retiennent écran mixte tout le long de l'émission.
Oui, mais les gens connaissent bien écran mixte maintenant puisque l'on le sait. Déjà, Yvan, tu nous as dit que tu es très content des préventes partent à la vitesse.
Eh bien, oui, les préventes, c'est une centaine de préventes par jour en ce moment.
Oh là là.
C'est incroyable.
Mais c'est normal pour le meilleur festival queer et LGBT de France.
Ouais, on est content. Alors vous savez que cette année ça se passe essentiellement au Comédia et à l'Institut Lumière et puis comme d'habitude les bibliothèques municipales, le Goethe Institut, le Lavoir Public bien sûr. On a un vrai off cette année avec un mini festival dans le festival avec la chatte, des tas de choses qui vont se passer au Lavoir, de partout dans toute la ville et encore une fois on investit toute la ville de Lyon pour une grande fête mixte.
Mixte.
Ah oui, bah oui, c'est mixte, c'est normal. Donc la soirée d'ouverture qui aura lieu au Comédia, on en a parlé ici déjà à l'émission puisque c'est un film de Rémi Lange dont nous avons eu l'occasion de parler ici. Nous avons consacré une heure. Il y avait avec nous donc Thomas Poli, le principal interprète, je dirais, du film. Et puis toi-même, tu as participé à ce film, d'ailleurs. On t'y voit à l'intérieur, tu vois faire tes débuts cinématographiques.
Oui, je joue le rôle d'un producteur un petit peu ambigu, très amoureux et un petit peu castrateur. Voilà.
Et ça s'appelle Le Chanteur. Donc, c'est un film de Rémi Lange et qui raconte l'histoire donc, de Thomas Poli, justement, le chanteur en question. Donc, ça, c'est le film qui va faire l'ouverture du festival.
Ah voilà, alors ouverture donc mercredi prochain au Comédia avec ce film-là, donc dans lequel Écran Mixte a été très investi, puisque c'est nous qui avons fait rencontrer le réalisateur Rémi Lange à l'artiste Thomas Poli. Au bout d'une heure de discussion, ils avaient décidé de faire un film, une grande fiction qui s'inspirait en partie de la vie de Thomas, mais pas seulement. C'est aussi un film totalement fictionnel, mais qui s'inspire de la vie de Thomas, qui reprend des vraies chansons de Thomas. Thomas a prêté ses chansons et Rémi Lange a composé autour des chansons de Thomas une histoire, un road movie absolument incroyable qui se déroule entre le sud de la France, Lyon, Paris et Dunkerque. C'est un film musical, à la fois journal intime, à la fois drame, à la fois des moments où on rit à gorge déployée, des vrais moments déjantés, comiques. C'est un film dont on est très très fiers et c'est probablement un des films les plus audacieux et les plus déjantés qu'on ait passé à une ouverture.
Alors le film a déjà été présenté au festival Chéri Chéri, festival de cinéma Chéri Chéri en décembre l'année dernière à Paris,
ouais.
Mais pas dans sa version définitive à Lyon, on aura la version définitive en fait mercredi soir.
Voilà, on aura la version cinéma puisque la version qu'on avait vue à Chéri Chéri était une version à peine montée, qui était plus longue, qui n'était ni mixée ni étalonnée. Là le film, vous le verrez dans sa version cinéma puisque le film sortira au dernier trimestre 2015 dans les salles de cinéma et notamment à Lyon. Donc c'est une grande avant-première et vous verrez le film terminé. Avec les membres de l'équipe, il y aura le réalisateur Rémi Lange, il y aura Thomas Poli. Et à la fin de la projection, Thomas nous fera un petit concert gratuit au Live Station. Au Live Station DIY, dans lequel il chantera quelques chansons du film et quelques chansons de son dernier répertoire. Alors, ce qu'il faut savoir très rapidement, ce film s'inspire un petit peu d'une étoile au nez. Vous savez, c'est grand classique hollywoodien, il y a eu 3 versions. Ça s'inspire de ça et aussi de la vie de Thomas. Et puis la réalité a rejoint la fiction puisque Thomas est en train de réussir. Voilà, il part à Paris au début mars. Le 8 mars, il part à Paris. Donc le 4 mars, mercredi prochain, il nous fera ses adieux à Lyon et il s'envole vivre sa vie artistique, un petit peu comme dans le film. Donc on est vraiment chez Rémi Lange, la réalité qui rejoint la fiction qui rejoint la réalité.
Mais il va revenir de temps en temps à Lyon.
Oui, il reviendra quand on l'invitera pour chanter.
On revient toujours à Lyon.
Exactement. T'as dit comme
toutes les carrières mènent à Lyon.
C'est pas habituel, je dirais, mais on a parlé du début puis on va parler de la fin. Voilà.
Oui.
Parce que la fin du festival, la clôture, c'est aussi un événement, un documentaire. Donc,
on a décidé d'ouvrir et de clore en mettant en avant des artistes lyonnais.
Voilà.
Donc,
en plus,
l'ouverture avec Thomas. Et la clôture est un film magnifique qui sort au cinéma aussi. C'est un long métrage documentaire qui s'appelle Vivant. C'est un film de Vincent Boujon. Vincent Boujon qui est très connu à Lyon dans le milieu artistique, dans le milieu de théâtre. C'est un film magnifique. C'est un documentaire, en fait, 5 séropositifs qui vont faire leur premier saut en parachute. Donc le film filme, on va dire, leur 3 jours de stage dans lequel ils apprennent tous les modes de sécurité pour sauter en parachute. Et durant ces 3 jours, les 5 personnages vont se raconter. Ils vont se confier les uns aux autres, ils vont raconter leur rapport à la maladie, leur rapport à la sexualité, leur rapport au couple, leur rapport au monde, à la vie et à l'amour. C'est un film d'une extrêmement touchant qui sortira au Comédia le 1er avril. Donc on est très content que le film sorte à Lyon, au Comédia. Il va sortir aussi dans le réseau des cinémas ARC Rhône-Alpes, on est très content. Et c'est un film magnifique. Alors il faut savoir que le film a fait un triomphe aux états généraux du film documentaire du Lussas, où toute la salle s'est levée à la fin. Et nous, on voulait garder ce film pour la fin. On voulait vraiment finir le film sur une note complètement optimiste, un élan vers la vie absolument extraordinaire. Ça, c'est la clôture. Et les préventes décollent à une vitesse grand V. On a eu 47 préventes, là, en 3 jours, rien que pour Vivant.
La clôture, donc, c'est le 10 mars, c'est ça ?
C'est le 10 mars, c'est du mercredi au mardi. C'est le festival se déroule durant une semaine cinématographique, du mercredi au mardi.
Et la clôture se fait également donc au Comédia ?
Alors, pratiquement tout le festival se fait au Comédia. Toutes les séances de cinéma se font au Comédia. Cette année, on a 15 séances au Comédia. C'est essentiellement des avant-premières. Et puis, bien sûr, l'invitation à Panos Koutras pour sa rétro et une carte blanche. Et outre le Comédia, il y a 2 séances à l'Institut Lumière pour une grande séance Panos Koutras.
Et entre les deux, donc évidemment, entre les deux événements dont nous avons parlé, il y a beaucoup de choses. Et Panos Koutras, on reviendra sur lui un peu plus tard, justement. On en parlera un petit peu plus tard. Indépendamment du festival, Écran Mix est partenaire souvent d'événementiel tout au long de l'année, hein, ça se limite pas au festival finalement, Écran Mixte.
Bien sûr.
Et puis cette fois-ci, tu m'as dit, mon petit Yvan,
on a une after du festival, oui, cette année officielle.
Oui, mais tu m'as dit aussi que tu avais, vous étiez partie prenante à la diffusion de la visite expo de David Bowie.
Mais oui, c'est ça l'after.
Donc, voilà, l'after, ouais. D'accord. Un after avec David Bowie.
On a une after du festival, ça sera le 12 mars, une projection du documentaire David Bowie Is au Pathé Bellecour à 20h, on est partenaire de cette projection. C'est une projection unique au Pathé, vous savez, le Pathé projette dans le cadre de leur Pathé Live, ils appellent ça des opéras, des retransmissions de pièces de théâtre ou de concerts. Et là, c'est un documentaire qui a été réalisé au moment de la création de l'exposition en Angleterre, à Londres. Donc c'est une
Victoria and Albert Museum.
C'est ça. Mmh. Et donc c'est une visite guidée de l'exposition Bowie, donc qui ouvre au même moment à Paris la semaine prochaine, mardi prochain.
C'est ça, au Philharmonie de Paris.
Donc l'exposition, elle a fait Londres, elle a fait Berlin, maintenant elle fait Paris à la Philharmonie de Paris à partir de mardi prochain. Et on va faire gagner des places à Pluriel Gay pour cette projection.
Alors effectivement, soit en appelant, soit en m'envoyant des messages, même sur mon mail privé, même les messages d'amour sont acceptés.
Avec photo.
Si vous, de préférence. Donc 04 78 21 05 96 95, je sais plus ce que je raconte, je répète, 04 78 21 05 95, c'est le numéro de Radio Pluriel qu'on peut appeler pour obtenir donc des places gratuites pour la visite filmée de l'expo David Bowie's au Pâté Bellecour le 12 mars
à 20h.
Et puis également sur soit en envoyant un message sur Facebook, et ça c'est valable tant que les places seront pas écoulées. Il y en a 6, hein, c'est ça.
Il y a 6 places.
Voilà. Puis même sur mon mail, si vous voulez, je peux vous le donner. Hein, voilà, notez tous. Gérald.Russo, mon mail privé, hein, carrément. Hein, Gérald.Russo, ça vous pourrez me faire part de votre admiration. Mes admirateurs secrets pourront m'envoyer des messages en toute tranquillité. Donc Gérald.Russo@orange.fr.
Et tu la donnes vraiment.
Ah, mais je donne carrément.
T'es un gueudin.
Ouais. Ah non, moi je donne tout, sauf mon numéro de portable quand même. Je ne verrai pas jusque-là.
Ah, oh, bah voilà. Toi non, tu le donnes. Bah, alors c'est 06. Moi je le donne par contre.
Non, mais après je ne veux pas avoir tous les débiles mentaux, tu sais, qui pourraient. qui auraient pu flasher, sublimer ma personne,
certes,
par exemple.
Oui.
Comme ça. Bah oui, il y en a qui aiment les daddies, hein, tu sais.
Mais je ne dirai rien. Toi aussi, tu te condamnes au silence comme Geoffrey. Du coup, on va faire l'émission entre nous.
Très bien.
Voilà, donc David Bowie is. Et c'est un événement, comme je disais, vous, Écran Mix n'est pas seulement le festival. Écran Mix, c'est aussi toute une série d'événementiels tout au long de l'année.
Tout à fait. Ouais.
Pourrais-tu nous citer quelques-uns de ces événementiels?
Bien sûr. Pride en septembre dernier, ouais, au Pâté Bellecour. Mmh. L'année dernière, on avait passé l'avant-première du très beau film Nour au CNP. Mmh. On avait passé aussi l'avant-première des Rencontres d'après-minuit de Yann Gonzalez au CNP. Ouais. Mmh. Donc on fait souvent des avant-premières en fonction de l'actualité cinématographique. Mais on travaille beaucoup avec le Pâté Bellecour, on les aime beaucoup, beaucoup.
Très bien.
Donc là, c'est bien, c'est tout de suite après le festival.
Ouais, ouais, c'est vraiment l'after avec David Bowie.
C'est ça, c'est merveilleux. C'est...
Ça pète sa race quand même.
Quand même, ouais.
Voilà.
Il y aura vraiment David Bowie?
Bien pas sûr que oui. Ben, je l'ai appelé, il m'a dit, je ne sais pas si je pourrais venir. Hein, peut-être, si je suis libre. Voilà, donc du coup, ben, toi, tu nous as prévu aussi une petite interruption musicale,
oui,
un petit interlude musical, un rapport avec David Bowie.
Et la France?
Et la France.
Et oui, donc je vous ai trouvé une chanson de David Bowie chantée en français. C'est la chanson Heroes que tout le monde connaît, mais en français, ça s'appelle donc Héros. Cette chanson est très connue parce qu'on comprend absolument rien à ce qu'il raconte. Il chante en phonétique et la traduction des paroles est absolument désopilante.
C'est-à-dire, alors attends, laisse-moi réfléchir à ce que tu dis. Mais en fait, la chanson, c'est quand même en anglais ou en français?
C'est en français.
En français.
Il a fait trois versions en 77, donc la version anglaise, la version allemande, puisque le film parle de deux amoureux. La chanson parle de deux amoureux au pied du mur de Berlin, donc il a fait une version allemande et puis une version française.
D'accord.
C'est celle qu'on va écouter. Ça s'appelle Héros.
Héros. Bon, bah, allons-y pour Héros alors. Tant que c'est pas in.
Et trois,
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Voilà, c'était donc David Bowie en français.
Je comprends rien du tout.
Mais c'est génial. Mais en même temps, on a l'impression qu'il souffre. Il a dû en chier pour enregistrer cette version.
C'est sûr.
Mais ça, même la version allemande, je suppose qu'elle est mieux. Non, mais franchement, comme il a dû galérer le pauvre.
Et justement,
c'est bien d'entendre sa voix quand même.
Ah oui, oui, mais
on reconnaît quand même sa voix.
Ah,
mais
oui,
bon.
Oui.
Alors à l'exposition, ils vont rééditer le 45 tours en français. Il y a à 2000 exemplaires collector.
Oui,
c'est vrai.
Ah, c'est collector, oui, ça c'est sûr.
C'est énorme.
Donc Jeffrey Jordan est un... Oui. Nous ne l'avions compris. Voilà. Et Jeffrey, comme d'habitude, tu es là souvent pour nous raconter tes aventures extraordinaires, puisqu'on sait qu'à chaque fois que tu sors chez toi, il se passe des choses extraordinaires. Même quand tu restes chez toi, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc du coup, là, cette fois-ci, comme d'habitude, tu t'es envoyé en l'air, parce que tu t'envoies régulièrement en l'air.
Mmh.
Voilà.
Toutes les semaines.
Et là, c'est avec l'invité. Donc...
Ne me regardez pas avec cet air plein de fierté, Gérald. Bon, les auditeurs sont pas cons quand même. Hein. Non, on n'a pas couché ensemble, comme vous pourriez le penser. Non, on a juste participé à un sport que notre invité Yvan aime particulièrement exercer. Le trampoline, figurez-vous. Alors, le trampoline, c'est quoi?
Bah oui, c'est quoi?
Bon, bah répondez.
Bah, je sais pas.
Non, c'est plaisante. Alors,
On saute,
exactement. Alors, le trampoline, d'abord, c'est un sport olympique de la catégorie gymnastique. Faut donc avoir au préalable un corps de gymnaste. Hein. Ah bah, comme Yvan, tiens, d'ailleurs. D'ailleurs, on se souvient surtout très bien des plus grands champions de trampoline français. Hein. Richard Tison, Emmanuel Durand, David Martin, Nathalie Treille. Hein. On s'en souvient, Laurence. On s'en souvient, Laurence, oui.
Oui, j'ai les posters de chez moi.
Bah, t'es bien la seule. Attention, le trampoline, c'est dur. Hein. Comme Yvan. Pardon, vous n'aviez qu'à pas vous mettre à côté de moi, cher ami. Bon, et je peux vous dire qu'il maîtrise parfaitement toutes les figures acrobatiques, ce grand gourgandin. Alors, il y a la chandelle, par exemple, qui consiste à éteindre des cierges le plus vite possible en se tenant bien droit. Le tombé-ventre, qui consiste à utiliser le ventre pour les éteindre. Le tombé-dos, un peu plus difficile parce qu'il consiste maintenant à utiliser le dos pour les éteindre. Et le tombé-assis, qui est très compliqué puisqu'il consiste à ce moment-là à utiliser le... Bien. Alors, il y a aussi la vrille. La demi-vrille, mais là, il faut être complètement bourré pour le faire. Le pull-au vert, ce sont de vraies figures, hein. Le pull-au vert, pour l'hiver, s'il fait un peu frais, comme ça, si un jour Yvan me lance « J'ai frais !» je répondrai avec humour des plus affligeants « Eh bien, mets un pull. » Les saltos, qui valent mieux que des propres tares. Hein. Oui, parfois, on pense qu'un jeu de mots va être drôle, en réalité, il ne l'est pas du tout. Il y a le barani, où on boit de très bons cocktails, hein, ce qui confirme mon affirmation précédente. Le half in ready out, qu'on peut aussi traduire par la moitié de Rudy en l'air. M'excuserai, je parle pas très bien allemand. Il y a aussi le full, et même le full. Ça, c'est pour les mecs un peu cons qui comprennent rien et à qui il faut répéter tout trois fois. Comme Yvan. Hein, Yvan? Comme Yvan. Hein, Yvan? Comme Yvan. Hein, Yvan? Voilà. Bien, une fois notre entraînement de la semaine dernière terminé, Yvan me parle de ses projets. Alors apparemment, cette année, on le verra partout lors du festival Écran Mixte. À la cérémonie d'ouverture dans Le Chanteur, le dernier film de Rémi Lange où il incarne un producteur de musique. Au bar, où Martine lui servira des litres et des litres de bière. Au restaurant, où il finira les plats des autres. Dans les rues de Lyon, quelques célébrités à son bras pour se faire mousser, évidemment. Il signera peut-être quelques autographes dans une boutique SM où il profitera pour tester sa nouvelle balançoire, et même dans les toilettes où il ira voir s'il n'y a pas deux ou trois Grecs qui traînent.
Ouais.
Ça te plaît, hein. Ce festival, c'est un projet ambitieux qui lui fait pousser des ailes depuis maintenant 5 ans. Plusieurs difficultés ont été surmontées par Yvan, mais aussi par toute son équipe, comme le jour où Philippe, le trésorier, est parti au Sri Lanka avec toute la caisse. Salopard.
Ah non, il s'est acheté des collecteurs de Dalida.
C'est vrai. Il a mis du coup dans ses toilettes. Bon. Alors, mais plus que jamais, voilà, c'est ça la conclusion. Écran Mixte rencontre le plus beau des succès. Encore la preuve ce soir. Vous avez vu, j'ai bien raison. Yvan, c'est comme au trampoline. Il saute haut, de temps à autre, il tombe, mais il sait parfaitement rebondir. Quant à moi, laissez-moi faire la plus magistrale des chutes. Aïe. Voilà. Merci.
Bravo.
Merci, Bernard.
Bravo.
Pour une fois qu'on avait le jingle, Bernard, il le coupe. Voilà, il y a un monde dans ce studio. Voilà. On dirait une chaîne crypto, on dirait Canal Plus. Tu sais quand t'as pas le décodeur.
Enregistrement public. Donc du coup, bah, Yvan, est-ce que tu t'es reconnu dans ce...
Ah ouais, ouais, ça sent le vécu. Ouais.
Voilà. Donc, Jeffrey parlait de grec, justement. Oui. Et il y en aura un, en tout cas, au festival célèbre.
Au moins un,
oui. Panos Koutras. Alors, parle-nous un peu de Panos Koutras. Qui est-il, d'où vient-il, pour ceux qui ne sauraient pas?
Panos Koutras est un cinéaste, effectivement, grec, qui parle parfaitement français, puisqu'il a fait ses études, il a fait la Sorbonne en France. Il fait du cinéma depuis une vingtaine d'années. Il a commencé dans le... C'est un cinéaste queer, ouvertement homosexuel, qui assume complètement son côté déjanté, queer, camp, et qui aborde des sujets graves, tels que l'immigration, vraiment des sujets sociaux graves, ancrés dans la Grèce d'aujourd'hui, mais toujours, avec énormément d'imagination, avec des apparitions, avec beaucoup de magie, beaucoup de féerie, un monde très enfantin. Et c'est vraiment un artiste vraiment passionnant. Et donc, on lui a envoyé cette invitation et il a répondu chaleureusement. On est très, très, très heureux. Donc, on lui a donné... on lui fait donc une rétrospective de ses 4 longs métrages.
Le plus connu, je dirais, est-ce que on peut dire que c'est Xenia ou ce serait plutôt l'attaque de la moussaka géante?
Voilà, il réalise son premier film en 99, l'attaque de la moussaka géante, une parodie des séries B ou des séries Z des années 50.
Qui est considéré comme un des summums du kitsch aussi.
Oui, c'est un hommage à Ed Wood, mais version folle, c'est-à-dire voilà, avec des travestis qui courent dans Athènes poursuivis par une moussaka géante, ouais. des scientifiques en blouse rose qui se font des papouilles. Voilà, c'est complètement camp, complètement fou, complètement folle plutôt. C'est un film qu'il a autoproduit, qui a fait le tour du monde et que pratiquement tous les PD ont le DVD chez eux. C'est les soirées qu'on se fait, tu sais, les soirées.
J'adore.
Et donc,
non, par contre.
Ah non, certainement pas.
Non.
Mon Dieu.
Mais n'empêche
que. Mais pas que les PD, même, enfin, tout le monde, l'attaque de la moussaka géante, c'est quand même. Même si les gens ne connaissent pas Panos Koutras, ne savent pas qui l'a réalisé, tout le monde connaît le titre du film.
Ouais. Mais c'est-à-dire que il a fait un premier film culte, qui fait le tour du monde. Ensuite, il réalise un deuxième film qui est resté inédit en France et qu'on proposera nous au festival, qui s'appelle Real Life, un film que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans le catalogue. Son troisième film, c'est le film qui le fait vraiment connaître dans le monde des cinéphiles, c'est Strella, une très belle histoire d'Oedipe, trans. On est dans quelque chose de vraiment très fort, très dur, mais aussi très très humain. Et puis son plus célèbre, Xenia, qui a été sélectionné au Festival de Cannes à un certain regard en mai dernier, qui raconte l'odyssée de deux frères, dont un qui est très très folle, deux frères albanais qui, pour avoir la nationalité grecque, doivent retrouver leur père de sang grec, puisque vous savez qu'en Grèce on prime le droit du sang.
Oui.
Et dans ce film Xenia, énormément d'apparitions, énormément d'imagerie poétique, on est dans un monde enfantin.
Dont ta chanteuse favorite préférée?
On entend Raphaëlla Cara, on entend Patty Pravo, c'est vraiment...
On la voit en plus, on l'entend, on la voit, Patty
On Pravo. La voit, oui, elle fait un caméo à la fin. Mais vraiment, c'est un film hyper touchant, Xenia, qui traite de sujets graves, mais toujours avec énormément de générosité, d'amitié, de fraternité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors... et on lui a donné aussi 2 cartes blanches.
Mais ce que vous faites habituellement au festival toutes les années, vous avez un invité d'honneur.
Et on lui donne une carte blanche.
Et là, qu'est-ce qu'il a choisi?
2 films. Il a dit, je vais choisir un film camp, qui n'est pas ouvertement homosexuel, et puis un film proprement homosexuel. Donc le film camp, c'est Stella, femme libre, film grec de Mikhail Kakoyanis, 1955. Un film féministe avant l'heure, magnifique. C'est un grand, grand film avec Mélina Mercouri. Ah,
la grande star du cinéma grec.
Qu'on va présenter
avec Irène Papas, on dira les deux plus connus.
Qu'on va présenter dans une copie flambant neuve à l'Institut Lumière. Donc, Panos Koutras viendra présenter ce film. Il nous expliquera en quoi ce film est très important dans la culture grecque et notamment dans la culture LGBT, auprès de la population LGBT. C'était La Femme Libre, copie restaurée à l'Institut Lumière. Et ensuite, deuxième projection à l'Institut Lumière, ce sera jeudi prochain, Xenia. Donc, 2 projections à l'Institut Lumière. Et sa deuxième carte blanche, c'est un film français. C'est Joanne de Philippe Valois, premier film homosexuel français, Philippe Valois, qui est un ami d'Écran Mixte, avec qui j'ai fait un livre, vous vous en rappelez. Et Johan, c'est un film complètement fou, où les filles sniffent du poppers, où les garçons dansent à poil en fabriquant des gâteaux, où des voyous offrent des fleurs à la maman de Philippe. C'est un grand film sur l'amitié, un grand film sur une bande de copains dans les années 70, à l'époque où les homosexuels se cachaient. Pour se rencontrer dans des toilettes, dans les souterrains, dans les parcs de Paris. Mais c'était une époque de grande liberté, alors que l'homosexualité était vraiment il y avait des centres de flics dans les milieux de drague et tout. Mais donc dans ce film là montre à la fois cette époque où il y avait très peu de liberté et à la fois où les homosexuels finalement étaient très libres, peut-être même encore plus qu'aujourd'hui.
Alors, je dirais que les deux cartes blanches, finalement, de Panos Koutras, ça sera un petit peu le côté patrimoine d'Écran Mixte. Parce oui. qu'on rappelle que toutes les années, et tu insistes beaucoup sur ce fait, Écran Mixte est aussi un festival de cinéma de patrimoine. Cette année, il y a beaucoup plus d'avant-premières, beaucoup plus de choses récentes, nouvelles. Et ces deux films, finalement, représentent un petit peu le côté patrimonial, puisque Strella, c'est un film de 1955, et Johan, en été 75, comme on l'indique, a été tourné en 75.
Oui, 76. Et puis il y a aussi l'hommage à Werner Schroeter, au Goethe-Institut, la mort de Maria Malibran, 1972. Qui sera précédé d'une conférence de Didier Rodbetoni.
Que nous saluons aussi, il nous écoute.
Et qu'on connaît très bien.
Et qui sera là pour le festival. Donc,
bien sûr. Effectivement. Il animera aussi les séances de Panos.
D'accord. Donc quand même, le patrimoine n'est pas oublié. Il y a toujours cette partie.
Ah, c'est la colonne vertébrale, toujours.
Oui.
C'est la colonne vertébrale. Et puis, le fait même de faire une rétrospective, c'est du patrimoine. Même si l'attaque de la moussaka géante, c'est 99, c'est quand même un regard...
Déjà patrimonial, ça aussi. C'est rentré dans les annales.
Doucement, Gérald. Arrêtez. Il faut toujours que Gérald revienne sur un truc vulgaire.
C'est comme ça.
Pourtant, j'ai horreur de la vulgarité.
Oh, bah oui.
Je suis
la reine d'Angleterre.
Alors, je vois aussi, parce qu'en feuilletant le livret, j'ai vu qu'il y avait des choses. De toute façon, tout est intéressant, évidemment. Alors, j'ai vu, par exemple, Der Kreis, un truc. Moi, c'est parce que c'est mon côté histoire, tu sais, qui ressort toujours. C'est sur l'histoire, donc, effectivement, du Zurich, on oublie souvent, était une très grande capitale homosexuelle après-guerre, après un peu la succession de Berlin, après dans le cadre du monde germanophone, on dira. Et le cercle est une des plus anciennes associations homosexuelles européennes. Et il y a donc ici, dans le festival Écran Mixte, je vois un docu-fiction de 2014, un docu-fiction suisse, donc, sur le cercle.
Alors c'est un des films qui va faire le plus de monde. Il y a les préventes partent à une vitesse affolante pour ce film-là. Le film sort le 4 mars au cinéma, mais pas à Lyon. Donc c'est la seule occasion que vous aurez de voir le cercle. C'est dans le cadre du festival Écran Mixte. Donc c'est une nouveauté. Voilà. Donc en fait c'est un docu-fiction, c'est-à-dire c'est une reconstitution, mais dans lequel les vrais personnages interviennent. Voilà. Ça parle de l'histoire de deux hommes qui sont aimés toute leur vie. Donc il y a deux acteurs qui jouent leur rôle et les deux héros interviennent tout au long du film.
D'accord.
Voilà, ça s'appelle un docu-fiction. Mais c'est un vrai film de cinéma.
Et dans le cadre histoire aussi, on a San Francisco 1985,
ouais.
Qui est, je crois, un film, quelque chose qui est un peu un coup de cœur aussi pour toi.
Oui, c'est une
fiction, donc cette fois-ci américaine.
Alors 1985, c'est l'année où on découvre où on met en place les tests du sida. Donc c'est l'histoire d'un jeune danseur et c'est son rapport au monde. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être gay en 1985 à San Francisco, comment aimer, comment avoir une sexualité épanouie, comment. C'est une époque où on croit que le sida se transmet par la sueur, et par la salive. Donc c'est un film qui parle de ça et c'est aussi un vrai film sur la danse. C'est un film très dansé. Il y a un petit côté qu'on dit flash dance dans ce film. Fame, voilà, un petit côté fame dans ce film. Ça se passe dans une troupe de danse et c'est un film très esthétique et très 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 sympa. On l'a mis le samedi soir à 22h. C'est un très bon film pour le samedi soir.
Tu nous as évoqué des films qui pour toi étaient des coups de cœur aussi, sur lesquels tu souhaitais insister, comme Lilting par exemple.
Lilting est un bijou. Il sort aujourd'hui en DVD. Mais vous le verrez version cinéma au festival. C'est une très très belle histoire sur le deuil, sur un coming out. Je ne peux pas raconter l'histoire, je ne vais pas spoiler. C'est une très très belle histoire, extrêmement touchante. Prenez vos Kleenex, ça fait pleurer, mais ça fait pleurer de bonheur. Voilà.
D'accord.
C'est vraiment des belles choses qui sont soulevées.
Bien. Donc on reviendra tout à l'heure en dernière partie d'émission sur le festival Écran Mixte. D'ailleurs, Lolo, ma petite Lolo, tu nous parleras d'une œuvre qui est présentée aussi à Écran Mixte.
Oui.
Qui s'appelle
Stand.
Stand. Voilà. Donc tu nous en parleras. Est-ce que tu as écrit quelque chose dans Hétéroclite de ce mois-ci à ce sujet?
Exactement.
C'est ça, je me suis
sur Hétéroclite, voilà, qui va sortir donc le mercredi 4 comme le jour d'ouverture du festival.
Donc on reviendra au festival un peu plus tard. On parlait de San Francisco 1985 du SIDA, c'est en plein finalement dans les chroniques de Thomas Dupuis, l'auteur donc des années Guépier. Que bah, si Bernard m'écoute, parce que toi, oui, il est là, oui,
bon. Et t'es allé se faire un café.
Non, il est. Non, mais tu sais, il est pas bien en ce moment.
Mais
il faut
il
ménager.
Mal au bras.
Hein, il a mal au bras. Donc,
chaque semaine, il se blesse.
Voilà.
On s'inquiète, Bernard.
Et malgré tout, il est venu jusqu'à l'émission en rampant, mais il est venu. Blessé.
Il partira en rampant.
Voilà. Donc, on va écouter maintenant la chronique de Thomas Dupuis. C'est l'année 86. J'étais toujours pas né, tu te rends compte?
Oh, moi non plus.
C'est fou ça. Mais là, tu naîtras un jour.
Ça me demande. De retour avec Thomas Dupuis, auteur des années Guépier.
Bonsoir.
Bonsoir Thomas. Pour la chronique de l'année 1986, politiquement, c'est l'année de la cohabitation.
Voilà, la France va inaugurer un nouveau système qui est la cohabitation. Donc ça ne s'est jamais fait. Le président de la République qui est en place est d'un parti politique et le Parlement, l'Assemblée nationale élue, est adverse. Donc ça va être Mitterrand va rester au pouvoir, l'Assemblée nationale passe largement à droite et du coup Mitterrand appelle Jacques Chirac à Matignon pour gouverner la France. Donc ça n'est fini là de la France socialiste. Pour autant, on n'a pas en France de menace, en tout cas en 86, quand ils arrivent quand même en mars, hein, c'est-à-dire que quasiment tout 86 est sous l'empire de la droite, mais ils ne s'attaquent pas du tout, tel que certains auraient pu le dire, aux droits des LGBT. De toute façon, en 86, la grande affaire, c'est les manifestations étudiantes contre le projet de loi de Vaquet, qui était le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, qui aboutiront à la mort d'un manifestant, Malik Oussekine, et c'est ce qui fera le point principal de la politique en 1986. Quand Chirac arrive en 86, c'est la suite des années Reagan et Thatcher aux États-Unis et en Grande-Bretagne. On est vraiment dans une philosophie économique capitaliste, libéraliste. D'ailleurs, la politique française suit cette voie-là. On privatise les banques, on privatise beaucoup de sociétés qui avaient été nationalisées avec Balladur au ministère des Finances. Et la France, elle aussi, donne l'impression de se libéraliser, notamment au niveau de la télévision. Avant, on n'avait que des chaînes publiques. En 85, déjà, Mitterrand a fait créer deux chaînes privées qui sont La 5 et TV6. Alors La 5, c'est Berlusconi qui fonde sa télévision en France. Et alors du coup, c'est Bling Bling, Paillette. Voilà, on est plus dans une télévision à l'italienne. Et donc, petit à petit, la télévision va se libérer et même le service public. On va voir sur Antenne 2 la directrice des programmes, Pascale Breugnot, qui va inaugurer l'émission Sexy Folies, qui en fait fait témoigner des couples sur leurs expériences sexuelles, ce qui s'était quand même jamais vu. Sur FR3 à l'époque, on a des téléfilms érotiques qui s'appellent Série Rose, qui théoriquement adaptent de la littérature érotique, mais bon, chez bon genre, etc. Enfin, même le service public s'ouvre. On a qui passe aux heures de grande écoute, on a les pubs pour Eram d'Étienne Châtillies, qui met en scène des travestis ou on ne sait pas trop, des créatures. Voilà. Au cinéma, on a Bertrand Blier qui sort tenu de soirée, qui fait quand même beaucoup parler. Tenue de soirée, c'était un film avec il y avait Miu Miu, Gérard Depardieu et Michel Blanc. Donc c'était un film qui abordait les thèmes aussi de la bisexualité, on va dire, en tout cas, du travestissement, enfin voilà. Donc, on a toute une France qui se libère, alors même que la droite, en plus, arrive au pouvoir. Alors, on verra que ça se tendra beaucoup plus en 87. Pasqua, qui était à l'intérieur à l'époque, va avoir des mesures beaucoup plus autoritaires, on dira, en 87.
L'année 1986, c'est encore et toujours le sida.
Le sida, effectivement, reste en 86 un véritable problème. Les chiffres explosent encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, on considère qu'à San Francisco, à peu près la moitié des homos, c'est-à-dire, on évalue ça à 80 000 personnes, sont considérés comme étant potentiellement atteintes, c'est-à-dire séropositives. Voilà, le sida aussi est devenu une des premières causes de mortalité chez les New-Yorkais. Voilà. Et puis, on se rend compte aussi à cette époque-là, on commence à parler des chiffres qui explosent et qui, alors là, sont totalement non maîtrisés en Afrique. En début d'année 86, des chercheurs américains parlent d'une nouvelle molécule qui apparemment a des résultats assez prometteurs. C'est-à-dire qui va stopper la progression du virus, qui va mettre le virus en sommeil et qui va permettre d'accroître largement l'espérance de vie des malades, c'est l'AZT. Donc l'AZT est annoncée aux États-Unis en début d'année. Les résultats effectivement sont concluants et l'AZT va arriver à titre expérimental en France à la fin de l'année. Donc distribuée à des patients un peu sélectionnés, plus ou moins tirés au sort, dans les grands établissements parisiens surtout, qui avaient des services spécialisés sur le sida. Il faut voir que dès qu'il y a eu des nouvelles molécules qui sont arrivées, et d'ailleurs Hervé Guibert en parlera dans son roman Le protocole compassionnel, au sujet de la DDI, à chaque fois les molécules étaient en nombre très limité. Et du coup, c'était un peu au petit bonheur la chance qu'on était tiré au sort pour en bénéficier ou pas. Donc l'AZT, effectivement, va avoir de véritables effets sur la maladie. Par contre, l'AZT s'accompagnait d'effets secondaires majeurs, lipodystrophie, diarrhée, etc. Enfin, c'était des traitements très, 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 très lourds, avec en plus des prises régulières difficiles. Donc c'était vraiment un traitement difficile, mais qui a représenté le premier espoir. C'était la première fois qu'on avait quelque chose. Voilà, et ça va un peu tout changer. Donc, l'AZT arrive en France. Et le gouvernement de l'époque aussi commence à mettre en place de véritables actions. Désormais, le test de dépistage du sida va être remboursé. Avant, il ne l'était pas. Donc, il fallait payer. Et aussi Philippe Séguin, qui à l'époque donc est nommé ministre des Affaires sociales, ajoute le sida dans la liste des maladies longues et coûteuses, c'est-à-dire celles qui vont donner lieu à indemnisation à 100% par la Sécurité sociale. Voilà. Donc ça, ce sont les premières mesures. On verra que le gros train de mesures, là plus pour la prévention, arrivera en 1987, l'année suivante, avec Barzac. Alors, au niveau politique, si effectivement le gouvernement commence à prendre les choses en main, alors par contre, il y en a qui vont faire leur fonds de commerce, c'est le FN. Alors, le FN qui a fait son entrée en masse à l'Assemblée nationale lors des législatives, grâce aux élections à la proportionnelle. Et donc, le FN va avoir son théoricien, c'est un médecin qui s'appelle le docteur François Bachelot. Alors, rien à voir avec Roselyne. Donc le docteur Bachelot va théoriser la question du sida au sein du FN, va en faire un repoussoir contre toutes les dérives de l'époque. Donc va le premier parler de sidatorium, avant que Le Pen lui-même reprenne l'expression, on va le voir l'année suivante. Voilà, donc le FN va investir la question de la maladie pour en faire des arguments politiques comme il en a l'habitude. Au sujet du sida, on notera aussi en 86 donc la mort de Thierry Leluron. Alors qui quelque temps avant sa mort, il y a eu des rumeurs comme quoi il était malade du sida. Il a démenti officiellement. À sa mort, il n'en sera pas question. La famille démentira toujours. Et puis maintenant, même Lynn Renault l'a reconnu récemment. Voilà, maintenant on sait qu'effectivement Thierry Leluron est mort de la maladie.
L'épidémie du sida n'empêche pas néanmoins une communauté gay de continuer à vivre et à prospérer, je dirais, notamment sous l'égide de David Girard. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de David Girard, qui est un peu un des symboles des années 80 en France ?
Alors, David Girard, pour ceux qui écoutent régulièrement l'émission, on en a un peu parlé. David Girard, c'est un personnage issu d'un milieu très populaire. Il était originaire de Saint-Ouen, qui a commencé en tapinant rue Sainte-Anne, donc à se faire du fric comme ça, puis à monter des salons de massage. Ça veut tout dire. Voilà, et plus si affinité, on dira. Et qui, comme ça, a, donc je sais plus, il se vantait d'avoir fait des milliers de passes, hein, mais qui, avec l'argent récolté, en fait, va monter un véritable business, un véritable empire, avec des restaurants, des clubs, notamment donc à l'époque c'était le Haute Tension. Il va avoir un journal gratuit qui était le 5 sur 5, un journal payant qui est GI, des saunas, donc le King puis le King Night. Donc c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de culture, mais qui, voilà, il aimait faire la fête, donc il y allait à fond et il a très bien géré son business. David Girard est quelqu'un de très décrié dans la communauté parce qu'on est en pleine année sida et lui, c'est la fête, c'est les établissements pour baiser, etc. Donc c'est un peu à l'encontre de tout ce pourquoi lutter ou luttent aujourd'hui les associations. J'aime bien, moi, la figure de David Girard parce que parti de rien, il est arrivé à quelque chose et il a essayé de redonner, dans un contexte qui était des plus moroses, le sens de la fête, et il y avait besoin de ça pour évacuer. En plus, David Girard, qui n'était pas du tout un théoricien, il agissait au final pour la communauté homo, là où les associations étaient complètement out. Le QAR, donc Comité d'urgence anti-répression homosexuelle, la grosse fédération de l'époque, en 86, ça y est, c'est mort. Pas officiellement, mais il n'y a plus rien. Le monde associatif est complètement dépassé, et notamment la Gay Pride. Les Gay Pride ont commencé en 77 officiellement. La première vraie marche qui est considérée comme la première Gay Pride en France, c'est 1981, le 4 avril. Donc il y avait eu beaucoup de monde, et puis petit à petit ça a décliné. Il n'y avait plus personne au Gay Pride, jusqu'à ce qu'en justement en 86... David Girard décide de relancer ça. Alors, il faisait défiler ses chars, c'est clair, c'était commercial, c'était disco, paillettes, etc. On était à 100 000 lieues des défilés militants, mais il n'empêche que c'est lui qui a permis que la Gay Pride marche, voilà, avec ses gros sabots. Tout le monde se foutait de sa gueule à David Girard, et notamment en 86, donc, il sort son livre Citizen Gay, où il raconte ses mémoires. Il sort un disque aussi l'année suivante. Et il sort son livre, mais il n'empêche que Bernard Pivot le reçoit apostrophe. Alors apostrophe, c'était la grande émission littéraire mythique toutes les semaines sur Antenne 2, donc ce qui est devenu France 2. Pivot le reçoit pour se ficher ouvertement de lui, mais il n'empêche que l'autre se démonte pas. Il raconte les choses simplement, naturellement. Il planait un peu. Lui, il était content parce qu'il faisait son business, que ça marchait. Et même s'il n'était pas du tout dans une démarche associative, il militait à sa façon. Il a permis aussi une véritable visibilité des gays. Il a permis aux gays, dans un contexte difficile, de se sentir bien, de faire la fête. Il faut savoir qu'aux Hautes Tensions, dans ces établissements, les associations comme Aide avaient porte ouverte. C'est-à-dire que David Girard avait laissé des consignes pour que les associations puissent librement rentrer, dispose de bureaux quand elles en avaient besoin, etc. Donc voilà, sans théoriser quoi que ce soit, il faisait des actions à sa manière, et c'est pour ça que je me suis un peu appesanti sur lui, parce que c'est une figure très importante d'abord des années 80 et à laquelle il faut rendre justice, même si c'était pas un grand intellectuel. Donc on lui a reproché de favoriser un peu l'épidémie du sida parce qu'il avait ses saunas, il avait ses clubs, etc., qui étaient des lieux de consommation sexuelle. Lui-même décédera du sida dans quelques années, on en parlera plus tard. Voilà, c'est pour moi une figure marquante, touchante, qu'il faut juger moins sévèrement que ce qu'a pu le faire la communauté jusqu'à présent.
Alors, en ce qui concerne la presse gay, on peut dire que le guépier conserve son leadership en 1986. Dans un certain marasme, finalement.
Alors, le guépier, effectivement, fête sa 7e année, donc l'âge de raison, on va dire. Les chiffres sont bons. On l'a dit précédemment, le guépier a quand même la chance d'être assis sur le Minitel qui lui permet de faire fonctionner la machine. Le guépier est un journal reconnu. Voilà. À côté de ça, les autres entreprises s'effondrent. Samouraï, c'était vraiment le magazine fondé par Jackie Fougeret, plus dans une optique samouraï, pour moi, me fait penser à Tétu aujourd'hui. Donc, samouraï jette l'éponge, samouraï s'arrête. Jacques Fougeray fera d'autres, va se lancer dans Illico. Masque aussi s'arrête. Alors, Masque, ça avait été fondé aussi comme le Guépier en 79. Masque était beaucoup plus. Donc, ça a été un trimestriel puis un mensuel. Ou le contraire, je ne sais plus. C'était beaucoup plus des articles de fond, des études, etc. Masque s'arrête donc en 86. De même que Homophonie. Homophonie, c'était le journal fait par le QR dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Le seul qui demeure, c'est Lesbia Magazine pour les femmes. Donc Lesbia qui avait été fondée, je crois, en 81, qui s'est arrêtée là il y a 2 ans, donc qui a perduré très longtemps. Alors, Lesbia qui n'est pas du tout sur le même mode que le Guépier. Lesbia n'était pas distribuée dans les kiosques. Lesbia était beaucoup plus artisanale et disposait de beaucoup moins de moyens. Voilà, mais on avait le pendant du Guépier qui, il faut bien l'avouer, c'était, le Guépier était quasi exclusivement un journal homosexuel gay. La question des femmes est très peu abordée. C'est surtout les questions des gays qui sont abordées. La question bi, on n'en parle pas, c'est voilà, on ne connaît pas. Quant au trans, c'était la question trans n'était pas du tout à cette époque-là dans la sphère des questions communautaires de l'époque. La notion de LGBT, pour l'instant jusqu'à T, après IQ, on verra, mais lesbien, gay, bi et trans n'est arrivé véritablement que dans les années fin des années 90, années 2000, où on a associé la question trans à nos problématiques.
Très bien. Donc nous nous retrouverons pour une prochaine chronique. Merci Thomas et à la semaine prochaine.
À bientôt.
Pluriel gay. Alone on a pluriel, 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 pluriel.
Gay.
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 Gay. Voilà, nous sommes là, de retour.
L'équipe d'Homo sapiens.
Voilà.
Ça passe rien pendant toute l'émission.
On devrait essayer, c'est un concept qui peut-être fonctionnerait.
On aurait l'air con.
Oui.
Ma petite Lolo, justement, je disais que tu avais fait un article sur Stan, qui est donc une des œuvres présentées à Écran Mixte.
En avant-première.
En avant-première, un film de Jonathan Taïeb.
Jonathan Taïeb.
Alors, oui. Dis-nous tout. Qu'est-ce que t'as aimé, c'est
oui,
ça
oui, oui, j'ai aimé.
Tu l'as vu?
Oui. Non, je ne l'ai pas vu, mais j'aime quand même. Je pressens que je vais l'aimer. Non, mais je l'ai vu, ouais. C'est un film de Jonathan Taïeb qui raconte l'histoire de deux jeunes, un couple de mecs russes qui, en fait, un soir, en rentrant chez eux, sont témoins d'une agression d'un jeune homme, en fait, qui se fait tabasser. Et du coup, bah, y en a un des... donc ils sont en voiture, il y en a un des deux qui souhaite aller secourir le jeune homme, et l'autre qui, au volant, lui dit « mais t'es fou, n'y va pas », et du coup, bah, il redémarre la voiture et ils s'en vont. Donc on se demande déjà bon, comment ça va se passer après dans le couple, après cette affaire-là. Et quelques jours après, ils apprennent par un ami commun, eux, qui est médecin, que le jeune qui s'est fait tabasser, en fait, est mort des suites de ses blessures, il est mort à l'hôpital. Le plus jeune, j'ai l'impression que c'est le plus jeune en fait dans le couple, donc il s'appelle Anton. Ça devient une obsession pour lui, cette histoire. Déjà parce qu'il culpabilise, parce qu'il se dit qu'ils auraient pu l'aider et peut-être que, bah, l'éviter au jeune homme de mourir. Et ça devient vraiment obsessionnel et il part à la recherche de la famille du jeune homme, d'abord pour essayer d'avoir des renseignements sur sa vie, qui y connaissait, et surtout il part à la recherche des agresseurs, en fait, des meurtriers du jeune qui, en fait, on l'apprend, a été tabassé parce que homosexuel. Et du coup, c'est le parcours un peu du combattant d'Anton. Il faut vraiment voir ce film, c'est un peu tout à la fois, ce film. C'est un film de genre, mais plusieurs genres. Donc c'est un film, on peut dire que c'est un film homosexuel. C'est un film de fiction, mais qui à la fois peut faire office de film documentaire, parce que ça, ce qui se passe à Anton ou ce qui se passe aux jeunes qui meurent, bah forcément, malheureusement, ça arrive très souvent en Russie, surtout depuis la nouvelle loi en 2013 là, sur l'interdiction de la propagande homosexuelle. C'est aussi un film à suspense. Limite, des fois, un film d'horreur. Il y a une scène au milieu du film où, en fait, bah, du coup, Vlad décide quand même d'aider Anton dans sa démarche parce qu'il ne veut pas le laisser aller tout seul et prendre des risques. Et à un moment, Anton disparaît en pleine nuit, où il avait rendez-vous avec un éventuel agresseur. Enfin, on n'en est pas sûr. Et donc, Vlad part à sa recherche et on entend juste... Alors, il fait nuit noire. On voit rien, on entend juste les pas de Vlad dans la neige et sa respiration. C'est tout ce qu'on entend. Et cette scène, elle fait flipper.
Angoissant, quoi.
Ah, c'est super angoissant, mais c'est super bien fait. Le film est tourné caméra à l'épaule. Tout le long du film, c'est caméra à l'épaule.
Sous le manteau même, sous le manteau.
Oui, parce que voilà, c'est ça aussi, c'est que le film a été tourné sans autorisation. En 11 jours, sans moyens, on peut dire, il a réussi à faire un film de cette facture-là. C'est énorme, il faut absolument voir ce film. Alors, la caméra à l'épaule tout le long du film, faut pas craindre. Surtout la scène angoissante, là, on flippe déjà au bout d'un moment, on se dit bon.
Faut pas sortir du restaurant, quoi.
Voilà, c'est ça. Faut y aller
avant. Manger avant.
Voilà. Mais vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être vu. Et surtout. Je vais surtout pas révéler la fin, mais c'est vraiment c'est un film militant. C'est vraiment très fort comme histoire. Et la fin est grandiose.
Et alors, le réalisateur est là. Il sera là, Jonathan Taïeb sera là, ainsi que son scénariste.
Donc il faut vraiment c'est que ça passe le 7 mars au Comédia. Le samedi 7 mars, ouais, 19h30, pardon. Non, il faut vraiment... C'est important qu'il existe ce genre de film, quoi. Surtout quand on voit donc filmé sous le manteau, sans autorisation, tourné en Ukraine. C'est impressionnant, le résultat.
C'est tourné en Ukraine, mais c'est censé se passer en Russie.
Oui.
C'est ça,
oui.
D'accord. Et donc, il y aura une rencontre de prévue avec le réalisateur. Tu nous disais, Yvan.
Le réalisateur, le scénariste, et puis aussi SOS Homophobie, qui sera là pour animer un débat.
Alors tout ça dans le cadre évidemment du Festival Écran Mix qui, je le rappelle, va commencer le 4 mars.
Mercredi.
Mercredi 4, se terminera le 10 mars. Les préventes sont ouvertes.
Vite, ça part vite.
Voilà, je mettrai des renseignements sur la page Facebook de l'émission. Que voulais-je dire de plus avant de nous quitter, puisque l'heure a tourné et nous allons bientôt devoir nous
séparer.
L'heure
tourne vite.
Voilà. Alors du coup, simplement, je voulais dire, faire un mot très rapide sur le fait que chaque année, le Festival Écran Mix se tombe à la période du fameux 8 mars. Le 8 mars qui est la journée de la femme. Et il se trouve que cette année, c'est un peu particulier.
le jour le plus long.
Le jour le plus long. Je n'ai pas osé le redire.
Bon, cela n'engage que vous, n'est-ce pas? Donc c'est la journée de la femme le 8 mars et toutes les années le Festival Écran Mix t'a quand même à cœur malgré ce que tu en dis Yvan
Oui, et en général une programmation toujours très intéressante, voilà, cette journée-là.
Organiser une thématique autour de ce sujet. Et cette année en plus la particularité c'est que la ville de Lyon est partie prenante.
Oui, vous savez, chaque année, donc c'est le cœur du festival, hein, le 8 mars. On fait toujours une programmation féministe en partenariat avec le réseau des bibliothèques municipales de Lyon. Et cette année, notre programmation, pour la première fois, est intégrée dans le programme officiel du 8 mars de la ville de Lyon. Donc, nos projections féministes, il y en a 5. Sont toutes dans le programme officiel de la ville de Lyon. C'est une vraie reconnaissance de la part de la ville et on est très 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 heureux. Donc 5 projections dans les bibliothèques, Bibliothèque Pardieu, Bibliothèque du 7e Jean Massé et Bibliothèque du 1er arrondissement.
D'accord. Et le magnifique catalogue que vous avez édité chez Écran Mix, on peut le trouver où?
Ah ben vous le trouvez partout.
Ouais, partout. Il suffit de regarder un petit peu.
Dans tous les coiffeurs, un peu. magasins de chaussures.
Bon, tous les commerces de la rue du président Edouard Herriot. Voilà. Voilà. Pour terminer, pour conclure cette émission, ben non, j'ai rien à dire pour conclure.
Très bien, et ben concluons.
Allons au cinéma.
Puis-je? Oui. Annoncer mes dates.
Ah, mais oui, Jeff, ouais.
Il vient que pour
ben non,
ça,
parce que, écoute,
que pour sa pomme. Non.
Mais c'est pas... Ah bon?
Mais non, vas-y.
Bah, je m'en vais alors.
À l'Instinct Théâtre.
À l'Instinct Théâtre. Théâtre 1. Hein?
À côté du Palais Royal.
Voilà, métro Palais Royal.
Derrière le Palais Royal.
Derrière le Palais Royal.
Il se passe beaucoup de choses derrière.
Il se passe beaucoup de choses derrière.
Oui, effectivement. Quartier Royal est un beau quartier.
Donc l'Instinct Théâtre, tous les samedis à 21h jusqu'au 28 mars.
À Paris.
Et en tournée à partir du mois d'avril.
À Paris, tu sais, cette ville là-haut perdue dans les brumes du Nord.
Ah, ça me dit vaguement quelque chose.
Oui, moi aussi. J'en avais entendu un peu parler avant.
Je pensais que c'était une légende.
Et tu joues à guichet fermé.
Pratiquement, oui. C'est pour ça que je fais de la pub comme ça.
La tournée à partir de quand?
Du mois d'avril.
Et bouche ouverte.
Guichet bouche ouverte.
Mais quelle horreur.
Tu vois, à chaque fois, on ne peut pas faire d'émission sérieuse. Oh, c'est ça qui est terrible.
Voilà, je vais donc laisser la place
à, la porte.
À Léa. Mais non, c'est Léa qui va s'installer.
Ah, très bien.
C'est la suite.
Bonsoir, Léa.
Bonsoir. Léa, je vais te laisser t'installer. Je salue tous nos auditeurs.
Oui.
Donc,
oui, nous
de nous nous retrouverons. Donc, la semaine prochaine, il y aura une émission probablement enregistrée, puisque tout le monde est à Écran Mixte. Donc, voilà, il n'y a plus personne pour faire l'émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à tous d'être venus. Place à Léa.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.